info à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Ouagadougou, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Ebola en République démocratique du Congo. Le directeur général de la riposte à l'épidémie en cours dans l'est du pays, le docteur Bart Njoloko, confirme qu'une personne est décédée du virus à Butembo, dans le territoire de Beni, la seconde ville de la province du Nord Kivu. C'est le premier cas mortel confirmé dans cette grande agglomération de près de 700 000 habitants. L'épidémie a déjà fait au moins 85 morts, dont 54 cas confirmés dans le territoire de Beni, selon les statistiques publiées par le ministère congolais de la Santé. RDC toujours, la société civile dans l'est du pays s'inquiète de plus en plus de la recrudescence des enlèvements de civils avec demande de rançon. Pour sa part, l'armée nationale congolaise accuse des jeunes de complicité avec les groupes armés. Le point avec Morgane Guiriec.
En 10 jours, 8 personnes ont été enlevées dans la plaine de Ruzizi, près de la frontière avec le Burundi, selon Claude Missaré, coordonnateur de la société civile à Uvira. Mardi, 3 commerçantes et leur chauffeur ont été enlevés à Rushima, toujours dans le sud Kivu. 2 agents de la Direction générale des douanes ont été enlevés au poste frontalier de Vugizo sur la rivière Ruzizi qui sépare la RDC du Burundi. Selon M. Missaré, les ravisseurs exigent 15 000 dollars pour leur libération. Aimable Massumbuko, militant de la société civile et le chef de la localité de Moutarlé, sont portés disparus depuis une semaine. Ils étaient partis remettre une rançon pour faire libérer d'autres otages, selon André Biadounia Machaka, président de la jeunesse d'Uvira. Un porte-parole de l'armée a accusé des jeunes de la région d'être complices de ces enlèvements, ajoutant que l'armée prend ses dispositions pour démanteler ce réseau et sécuriser la plaine de Ruzizi.
Par ailleurs, des enquêteurs de l'ONU sur le Burundi ont prévenu mercredi que de graves violations des droits de l'homme dans des crimes contre l'humanité continuent dans ce pays. Et dans un rapport, la commission d'enquête sur le Burundi a dénoncé ce qu'elle qualifie d'appel récurrent à la haine du président burundais Pierre Nkurunziza et de ses partisans. La commission s'élève contre l'impunité et appelle à un apaisement du climat politique avant les élections de 2020. Au micro d'Abdourahmane Dia, les explications d'une des membres de la commission, Françoise Hampton, jointe à Genève, en Suisse.
C'est grâce à des témoignages de gens, surtout dans les pays aux alentours du Burundi, mais aussi de gens qui sont toujours au Burundi. Ça nous a permis de conclure qu'il y a une continuation des violations qu'on avait constatées l'année dernière, c'est-à-dire des exécutions arbitraires, des arrestations et détentions arbitraires, des cas de torture et d'autres traitements cruels et inhumains, des violences sexuelles et des violations des libertés publiques. Et aussi, cette année, on a examiné la question des droits économiques et sociaux et on a trouvé qu'il y avait des violations de ces droits-là aussi. Et c'est grâce à ces témoignages, l'analyse des témoignages, la corroboration de ce qu'on nous dit et aussi on s'est servi des rapports, par exemple, de la Banque mondiale, du Fonds international monétaire, où ils ont parlé de, par exemple, du budget du pays et ce genre de renseignements.
Oui, justement, en parlant de méthodologie, est-ce que vous avez pu vous rendre sur place?
On aurait voulu nous rendre sur place, mais malheureusement, depuis le début, parce que la première itération de la commission d'enquête, c'était de 2016 à 2017. Et depuis le début, le gouvernement nous a refusé la permission de venir au Burundi. C'est dommage, mais ça ne nous empêche pas d'enquêter. Et avec les moyens de 2018, c'est même pas difficile d'avoir des contacts avec les gens qui sont toujours au Burundi.
Mais certains pourraient pointer un problème de crédibilité si vous n'avez pas pu vous rendre vous-même sur place.
Je ne vois pas pour quelle raison la crédibilité dépend d'être dans un pays. Ce qui compte, c'est avoir des contacts avec les gens qui ont été victimes ou témoins de ce qui se passe, y compris des gens qui étaient proches au pouvoir. Parce qu'il y en a qui ont quitté le Burundi, qui autrefois étaient proches au pouvoir et même impliqués dans les actes, y compris les violations des droits de l'homme.
Alors le Burundi ira aux élections en 2020. Comment voyez-vous cette échéance électorale?
Eh bien, la période avant des élections, dans beaucoup de pays, c'est une période de tension et une période où il y a un grand risque de violation des droits de l'homme, surtout en ce qui concerne la liberté de manifester liberté d'expression et ce genre de droits de l'homme. Et c'est pour cette raison que nous nous inquiétons de ce qui va se passer entre maintenant et 2020. Et nous pensons que c'est important qu'il y ait un système international indépendant et impartial qui peut suivre la situation et voir ce qui se passe au Burundi.
Françoise Hampton de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Érythrée, réouverture de l'ambassade d'Éthiopie à Asmara, la capitale, dans le cadre de la spectaculaire réconciliation intervenue entre les deux voisins de la Corne de l'Afrique après des années de tensions. Le président érythréen Isaias Afwerki et le nouveau premier ministre éthiopien, le réformateur Abiy Ahmed, ont personnellement rouvert la mission éthiopienne lors d'une brève cérémonie aujourd'hui. Les deux leaders avaient signé en juillet un accord de paix mettant officiellement fin à une longue période d'hostilité. Monsieur Abiy Ahmed est en Érythrée depuis mercredi pour sa deuxième visite depuis son arrivée au pouvoir en avril et il a visité les principaux port sur la mer Rouge avant de gagner Asmara. Soudan du Sud, une cour martiale sud-soudanaise a reconnu aujourd'hui 10 soldats coupables de viol de travailleurs humanitaires et du meurtre d'un journaliste lors de combats à Djouba, la capitale, en juillet 2016. Le tribunal militaire a jugé que les accusés étaient coupables en raison de leur responsabilité directe dans ces crimes, a déclaré le juge Knight Bariano Almas, en faisant état d'accusations de viol, meurtre, pillage et destruction. Afrique de l'Ouest maintenant, au Burkina Faso, deux militaires ont été tués et 6 blessés hier dans l'explosion d'une mine artisanale à Kabonga, dans l'est du pays. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Selon une source sécuritaire, les victimes sont des démineurs qui se rendaient à Pama, dans l'est du pays. Leur véhicule a sauté sur une mine. Cette équipe de démineurs avait été déployée dans la zone pour rechercher et neutraliser les engins explosifs utilisés dans l'Est par des présumés terroristes. Il y a une semaine, 7 soldats ont été tués dans l'explosion d'un engin artisanal 15 jours après la mort de 6 personnes dans des circonstances similaires dans la même région. Dans une note sur la situation sécuritaire dans l'Est, le responsable régional de la police, le commissaire Karim Drabo, alerte sur des présences répétées d'hommes armés dans la zone. Il prévient que si des mesures ne sont pas prises rapidement, les assaillants auront le temps de s'installer et de parsemer des engins explosifs autour de sites qu'ils auront occupés dans la région.
Actualité américaine maintenant, les États-Unis ne sont pas prêts à conclure d'accord commercial avec la Chine, mais les discussions vont se poursuivre entre les deux premières puissances économiques mondiales, a déclaré mercredi le président américain Donald Trump. L'administration américaine qui envisage l'instauration de nouveaux droits de douane portant sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises a organisé des consultations en vue de leur entrée en vigueur de plus en plus probable vers la fin septembre ou début octobre. Et toujours concernant l'actualité aux États-Unis, ici à Washington, nouvelle controverse autour de la présidence de Donald Trump. Le chef de l'exécutif américain a demandé hier soir au New York Times de lui remettre immédiatement pour poursuite le nom d'un haut responsable de son administration dont la tribune anonyme Fort Critique a été publiée mercredi par le grand quotidien américain. Le point avec Anne Albertson.
Dans son tweet, M. Trump s'est posé des questions sur l'existence même de ce haut responsable et s'est demandé s'il ne s'agissait pas d'une autre source fausse inventée par le journal qu'il a qualifié de très malhonnête. Auparavant, il avait écrit un tweet composé d'un seul mot en majuscule « trahison ». M. Trump a dénoncé un texte lâche. Dans sa tribune anonyme, le haut responsable en question explique pourquoi et comment il s'efforce, avec d'autres, de lutter de l'intérieur contre, je cite, « les pires penchants du président américain ». Il a dit que le cœur du problème, c'est ce qu'il a appelé « la moralité du président ». La porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, s'est déclarée déçue, mais pas surprise, par la décision du New York Times de publier ce texte, dénonçant une tribune pathétique, irréfléchie et égoïste. La veille, les médias avaient publié de larges extraits d'un livre explosif du journaliste d'investigation Bob Woodward, qui dresse le portrait d'un président colérique et paranoïaque que ses collaborateurs s'efforcent de contrôler, voire de contourner, pour éviter, écrit-il, de dangereux dérapages.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. voaoafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.